Lyon Demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin.
Parce que Lyon Demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité en ce lundi, nous sommes le 21 avril. Les attaques contre les prisons ont été nombreuses en France ces derniers jours, y compris autour de Lyon. De nouveaux secteurs de stationnement payants seront mis en œuvre dans 3 arrondissements à partir du 13 mai. La métropole et la ville de Corba ont choisi l'entreprise Tecofi pour rejoindre la zone industrielle Lyon-Est à Corba. Attention, le service Rhône Express est à l'arrêt jusqu'au 7 mai. Des navettes sont mises en place entre Lyon et l'aéroport. Passionné de météo et amateur de sensations fortes, la ville de Bron s'apprête à accueillir un événement unique en son genre, la première édition du festival Chasseurs d'Orage. Ce sera le week-end prochain à l'espace Albert Camus. Nous avons rencontré l'organisateur Mathieu Brochier.
Lyon Demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin, Gérald de Bouchon.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Les attaques contre les prisons allant du tag au tir à l'arme de guerre ont été nombreuses en France ces derniers jours. Dans la nuit de samedi à dimanche, la maison d'arrêt de Corba a été ciblée. Les inscriptions DDPF pour défense des prisonniers français ont été taguées sur les murs de l'enceinte pénitentiaire. Un véhicule stationné à proximité a été incendié. Un immeuble de Villefranche a également été tagué DDPF dans la nuit de jeudi à vendredi. Deux agents pénitentiaires exerçant en calade ont vu leurs horaires de travail et identité révélés sur le réseau social TikTok ces derniers jours. Pour répondre à la menace qui pèse sur les gardiens de prison, la préfecture du Rhône a annoncé au Progrès le renforcement des patrouilles de police aux abords des deux établissements pénitentiaires du département. Une enquête est en cours pour tenter d'identifier les membres du réseau DDPF qui ont revendiqué sur Telegram la série de violences qualifiées d'attaques terroristes par Gérald Darmanin. Il pourrait s'agir, à en croire le ministre de la Justice, de dealers cherchant à se venger de sa stratégie contre le narco-banditisme. À l'issue de 9 jours de grève, les personnels de l'unité R2 de l'Institut d'hématologie et d'oncologie pédiatrique IHEP ont arrêté leur mouvement. Ils ont obtenu des engagements des directions de l'établissement, à savoir le Centre Léon Bérard et les Hospices Civils de Lyon. Les grévistes, soutenus par la CGT du Centre Léon Bérard, demandaient des moyens supplémentaires en personnel et en matériel. De nouveaux secteurs de stationnement payants seront mis en œuvre dans 3 arrondissements à partir du 13 mai dans le cadre de la nouvelle politique de stationnement pour plus de justice sociale et pour garantir un meilleur partage de l'espace public. Le quartier Montchat est concerné dans sa partie ouest sur le 3e arrondissement. Des axes de circulation comme la rue du Dauphiné ou la rue Foya passent en secteur payant. Dans le 5e arrondissement, le quai des Étroits entre le pont Kitchener et le quai Jean-Jacques Rousseau est aussi inclus dans le secteur. Les places deviennent payantes au sud-est de Gerland, le secteur autour du stade. La rue Saint-Jean-de-Dieu et le boulevard Jules Carteret basculent ainsi en secteur payant. Les habitants des rues concernées ont la possibilité de se rendre en mairie d'arrondissement pour faire la demande de vignettes et bénéficier ainsi de tarifs préférentiels. Le projet de transformation du quartier des Clochettes et de la place des Palabres à Saint-Fond. L'objectif est d'apaiser la circulation et de favoriser les mobilités douces. Pour ce faire, une centaine de places de stationnement vont être supprimées sur la place. Les travaux doivent commencer cet été jusqu'au mois de février 2026. Après un peu plus d'un an et demi de consultations, la métropole de Lyon et la ville de Corba ont choisi l'entreprise Tecofi pour rejoindre la zone industrielle Lyon-Sud-Est dans le secteur du Carreau. L'entreprise va pouvoir s'installer sur une parcelle de 16 000 m2, ce qui va lui permettre de relocaliser une production 100% française. Créée en 1985, elle emploie aujourd'hui 250 personnes et est présente dans 110 pays. Depuis 40 ans, Tecofi a pour mission d'apporter des solutions pour la préservation des ressources en eau dans le monde. 28 emplois doivent être créés dans l'immédiat et 50 d'ici 2030. Afin de limiter l'impact sur l'environnement, 150 arbres de haute tige seront plantés sur le site. Les eaux de pluie seront récupérées, des espaces refuges sont prévus pour la biodiversité, avec aussi l'installation de panneaux solaires produisant l'équivalent de la consommation du bâtiment. La livraison est prévue au second semestre 2026. Attention, le service Rhône Express est à l'arrêt jusqu'au 7 mai, et ce dans le cadre des travaux liés au prolongement de la ligne T6 et à la création de la future ligne T9. Des bus relais sont mis en place toutes les 30 minutes. Ils effectuent la liaison entre Lyon-Pardieu et l'aéroport via Vouin-en-Velin-la-Soie. Attention, la station Mézieux, zone industrielle, n'est pas desservie. Le métro A est aussi renforcé avec une augmentation de fréquence. Pour rejoindre l'aéroport, il faut 65 minutes contre 30 habituellement.
Lyon Demain, créateur d'envie.
Passionné de météo et amateur de sensations fortes, la ville de Bron s'apprête à accueillir un événement unique en son genre, la première édition du festival Chasseurs d'Orage, qui se tiendra le week-end prochain à l'espace Albert Camus. Au programme, une exposition photographique à couper le souffle présentera les œuvres de 12 artistes photographes spécialisés dans la capture d'éclairs. Mais Chasseurs d'Orage ne se limite pas à une exposition. Des conférences et des débats animés par des météorologues, des chasseurs d'orage expérimentés et des experts partageront leurs connaissances et leurs anecdotes sur la formation d'orage, les techniques de prévision et les impacts du changement climatique sur ces phénomènes. Nous avons rencontré Mathieu Brochier, organisateur de ce festival Chasseurs d'Orage.
Un chasseur d'orage est un passionné par les phénomènes climatiques extrêmes et notamment par les orages. C'est une personne qui va parcourir beaucoup de kilomètres, généralement. Alors, on va dire qu'un chasseur d'orage, ça peut commencer à partir de... Si on a déjà la démarche de prendre sa voiture pour aller observer de l'orage, on est un chasseur d'orage. Il y en a qui font ça près de chez eux et d'autres qui font ça à l'autre bout du monde. Et donc, le chasseur d'orage va effectivement essayer d'aller trouver un orage, un bel orage. On cherche pas forcément les phénomènes les plus violents, on va chercher des orages les plus esthétiques le plus souvent, en tout cas pour les chasseurs d'orage qui ont la démarche de faire de l'image d'orage. Et donc, c'est une personne qui va photographier l'orage, le filmer l'orage, parfois pour certains faire des relevés, même si c'est plus rare, et donc il y a cette quête d'aller chercher ce ciel chaotique, parfois à l'autre bout de la France, à l'autre bout de l'Europe ou à l'autre bout du monde, aux États-Unis souvent d'ailleurs.
Ce chasseur, il a quoi comme arme à sa disposition ?
Le chasseur à sa disposition, déjà, il a effectivement sa voiture, ça c'est une bonne arme parce que sinon on se déplace pas. Il a du matériel photo, c'est vraiment avec ça qui va immortaliser ce qui se passe dans le ciel, et puis beaucoup d'outils aussi en amont pour faire sa prévision, des outils, donc il faut un matériel informatique, un ordinateur, une tablette pour regarder les modèles météo. En fait, c'est des données sur de la prévision météo avec des paramètres de l'air par exemple, de l'humidité, de l'instabilité, la direction des vents, la puissance des vents, etc. Et en fait, le chasseur d'orage va utiliser tous ces outils-là pour définir ce qu'on appelle, on aime bien parler de target, une cible en français, pour se dire, ok, il faut que j'aille là, moi je pense que c'est là qu'il va y avoir le plus bel orage, en tout cas celui qui va me permettre de faire de la belle image.
Parce que quand on a l'information qu'il y a un orage, on sait aussi quelle forme d'orage ce sera. On s'attend un petit peu à voir ce qu'on va photographier.
Un petit peu, mais il y a aussi beaucoup de surprises. Dame Nature, elle fait un petit peu ce qu'elle a envie. On peut très bien faire réussir une belle image d'orage en sortant à 3 minutes de chez soi, et comme on peut faire 600 km et repartir bredouille. Donc il y a toujours un aspect surprise. Après, oui, on sait qu'en fonction de ce qu'on appelle la synoptique, c'est-à-dire des rapports de puissance entre l'air, la dépression, l'anticyclone, etc., les vents, on sait si ça va être un orage, on va dire, isolé sur une montagne, ou est-ce qu'au contraire ça va être une grande dégradation orageuse qui va balayer le pays, par exemple, du sud-ouest vers le nord-est. Ça pourra être peut-être moins esthétique parfois. Donc on sait un petit peu à quoi s'attendre. Et puis parfois, quand on a des conditions assez extrêmes, et ça arrive aussi en France, on a ce qu'on appelle des supercellules. C'est des orages qui sont en rotation. Et les supercellules sont les orages qui arrivent à générer des tornades. Parce que même en France, on a en moyenne une quarantaine de tornades par an sur le territoire.
Et la région lyonnaise, c'est un bon terrain de chasse pour les orages, au point d'y faire un festival ?
La région lyonnaise, déjà, c'est un carrefour intéressant. On a plusieurs types d'orages différents en faisant une heure et demie de route. On a d'abord les orages qu'on a sur les reliefs, dans les Alpes, l'été, quand il fait souvent très chaud, on a des orages sur les reliefs. On a les orages de la vallée du Rhône et aussi des Cévennes avec les épisodes Cévenol méditerranéens. On peut avoir aussi les orages qu'on retrouve de façon plus classique dans des dégradations sud-ouest-nord-est. Dans ce cas-là, Lyon peut être touché, ou parfois on peut monter un petit peu plus au nord, du côté de la Côte d'Or par exemple. Donc Lyon, c'est un carrefour intéressant, mais aussi Lyon est touché par les orages. Et d'ailleurs, sur le festival, on fait tout un pan de l'expo photo immersive où on met en valeur Lyon sous un ciel chaotique, sous un ciel d'orage avec des éclairs qui zèbrent le ciel et les monuments de la ville. Donc oui, à Lyon, il se passe beaucoup de choses et c'est aussi le carrefour vers d'autres terrains de chasse. Donc c'était vraiment pour nous le bon endroit pour faire ça.
Et quand on pense à Bron, on pense évidemment à Météo France qui a son siège ici, mais aussi d'autres structures finalement qui sont dans l'économie et qui comptent pour le chasseur d'orage.
Oui, ce qu'on dit, c'est qu'en France, on est la deuxième communauté de passionnés après les États-Unis, déjà, ici en France. Et surtout, on a la chance d'avoir effectivement Météo France, aussi Météorage et d'autres entreprises qui sont liées à la météo et où on a des experts de la foudre. Je pense notamment par exemple à Indelec, qui est un fabricant de paratonnerres en France et qui rayonne partout dans le monde. Et on a aussi des scientifiques qui étudient précisément ces phénomènes-là. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on s'est dit que c'était bien de faire un événement qui réunit toutes ces compétences-là pour présenter quelque chose au grand public et apporter de la pédagogie sur les phénomènes climatiques extrêmes. Et puis, si les gens peuvent peut-être regarder un petit peu moins leur téléphone et TikTok et regarder, lever les yeux vers le ciel, ça peut être chouette.
Et c'est pas seulement une exposition photo, même s'il y a 12 photographes qui sont mobilisés sur l'événement, mais il y a aussi beaucoup d'autres choses qui vont pouvoir être faites.
Tout à fait. Alors l'expo photo, c'est une partie. On a aussi un cycle de conférences qui est ouverte à tous les publics. Vraiment, ce cycle de conférences. On va évoquer la météo, on va évoquer les orages, on va évoquer les risques, par exemple, liés aux inondations. On va évoquer aussi l'image en soi. Notamment, il y a une conférence, une discussion sur l'intelligence artificielle, le lien entre l'intelligence artificielle et l'image aujourd'hui, alors que nous, les chasseurs d'orages, on est témoins de ces phénomènes-là. Mais comment on fait si quelqu'un va publier une image, mais qu'en fait, on se retrouve qu'elle n'est pas réelle, quelles armes on va avoir finalement pour traiter de ces sujets. On aura aussi toute une partie d'animation avec les bobines Tesla. C'est des machines qui permettent de créer des arcs électriques. Donc on aura de véritables éclairs sur le festival.
Des espèces d'ampoules, c'est ça
de... Oui, en gros, c'est des machines qui génèrent de l'électricité, qui cumulent de l'électricité et qui vont les décharger sous forme d'éclairs. Et on a plusieurs animations qui sont liées à ces bobines-là. Il y en a qui font de la musique. Il y en a d'autres qui vont être placées au-dessus d'une cage de Faraday. Et donc on pourra, par exemple, faire entrer des personnes du public dans une cage de Faraday. Les éclairs tomberont sur la cage de Faraday. Ça promet quand même des moments intenses. Le samedi soir, on voulait faire un concert pour marquer aussi cet aspect festif de l'événement. Et puis, on a notre village partenaire avec... Qu'est-ce que serait un festival sans la partie bar, food truck, sans le village? Et pour ça, on a privatisé tout le parvis de l'espace Albert Camus. Donc on prend tout le complexe, il y a l'auditorium, toutes les parties modulables pour faire l'expo photo et l'extérieur pour faire le village partenaire.
L'orage fait peur au grand public. En revanche, pour le chasseur d'orage, c'est une façon un peu de magnifier, je sais pas, une architecture, un paysage.
Le chasseur d'orage, on va dire que tous les chasseurs d'orage ont une sensibilité différente. Pour certains, ça va être un peu plus poétique. Chercher à se reculer de l'orage pour en avoir une vue un petit peu plus en arrière, d'autres ça va être l'intérêt d'avoir un éclair qui va tomber très très proche et de sentir l'adrénaline. On a beaucoup de sensibilités différentes. Les chasseurs d'orage ne recherchent pas forcément la même chose. D'un point de vue peut-être un peu plus personnel, moi ce que je dis d'ailleurs dans un film, c'est j'ai l'impression que c'est la fin d'un monde avant la fin du monde. Je vais chercher ce chaos dans le ciel. J'ai l'impression que la nature remet un peu l'homme à sa place. Mais pour ça, chaque chasseur d'orage aura une version différente et vous dira quelque chose de différent dans ce qu'il a envie de vivre et de raconter avec les orages.
On pense à l'image, bien sûr, mais aussi le son. Est-ce que le son d'un orage, ça peut s'exploiter? Est-ce que des gens font quelque chose? Des musiciens l'exploitent?
Tout à fait, oui. D'ailleurs, sur la partie concert, on a un musicien qui a enregistré des sons du tonnerre, qui a aussi utilisé des données sur la foudre pour créer un live musical de 45 minutes et ce sera une expérience inédite qu'il va proposer du coup dans le concert le 26 avril au soir.
Mathieu Brochier, organisateur du festival Chasseurs d'Orage à Bron le week-end prochain, c'est à l'espace Albert Camus. Le derby, les Verts s'offrent la partie, les Stéphanois ont ouvert la marque dès la 10e minute, ils ont même accentué leur avance. L'Olympique Lyonnais est revenu à 2-1, mais les Verts ont tenu bon pour s'imposer. Au final, au classement, l'Olympique Lyonnais retombe à la 6e place. La Saint-Étienne est 17e, toujours relégable. Sorti sur civière à la 25e minute du derby, Corentin Tolisso souffrirait d'une entorse au genou droit. Le Loup poursuit sa marche en avant dans le top 14 grâce à sa victoire 32-23 contre Montpellier. Il remonte dans le bon wagon pour la qualification. Ce succès permet en effet au Loup de remonter à la 6e place avec 48 points. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour une prochaine édition.